matin, le retour.
À 2 minutes de 14 heures, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. En congé ou pas, on vous salue, merci d'être des nôtres. C'est la plus belle depuis un bout, et c'est la plus belle pour un bout. 28 degrés présentement à Québec, maximum à 29 ou 30 degrés, minimum de 17 ce soir et cette nuit, si on veut étirer la soirée et la nuit. Encore une fois, ça va être des températures ultra confortables. Demain, ça n'a pas changé, malheureusement. Samedi, demain, des nuages, des orages dispersés. Un maximum de 26 degrés. Les probabilités d'averse sont à 80 %. Par contre, on a regagné notre dimanche. Soleil, quelques nuages, maximum de 26. Il n'y aura pas d'averse. On perd rien pour attendre. La prochaine semaine, elle est sous le signe de la pluie en continu, lundi, mardi, mercredi, jeudi et même vendredi. Et c'est à grands coups de dizaines de millimètres presque à tous les jours. Un 5 pour lundi, un 10 pour mardi, 20 millimètres mercredi, 20 millimètres jeudi. Morale de cette histoire, si vous êtes en congé aujourd'hui, de loin vous faites partie des plus chanceux du mois de juin. Pour nous rejoindre en studio, le 418-971-1021. Le Facebook est ouvert, l'Instagram est ouvert et le Twitch l'est tout autant, twitch.tv. La chaîne BLVD barre en dessous. FM, mon nom est Denis Gravel. La gang s'installe jusqu'à 18h. Sam est pas loin. Véro, si je ne m'abuse, est en train de collecter nos invités à Internet. Et en studio avec nous, tel que promis, Pierre-Aud, salut!
Vous aviez promis ça, vous?
On a promis ça au monde, ouais.
Heureusement qu'on est ici.
Comme les politiciens, on lance ça dans les airs, puis si ça tombe pas, on fait ben coudonc, c'est pas de notre faute. Hein. C'est la faute de l'opposition, monsieur le président.
Oui, mais c'est toujours la faute de l'opposition. Comme nous, à Montréal, c'est toujours la faute de Québec.
Ouais, c'est ça. Ben, nous autres, on fait pas ça. Hein.
Jamais.
Ah non, on est vraiment matures à Québec.
Non, moi, je dis Québec-province, pas Québec la ville.
Ah! Je pensais que tu voulais relancer la rivalité des autoroutes, là, mais...
Non, n'insistons pas. J'ai fait la paix avec les autoroutes, honnêtement. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé pourquoi je préfère la 40 plutôt que la 20.
Pourquoi?
Mais c'est purement psychologique. Parce que dans le fond, le chemin le plus court aujourd'hui pour nous, c'était l'autoroute 20.
Mm-hmm.
C'est que la 40, je trouve qu'il y a des étapes. T'sais, tu pars de Montréal.
T'as l'impression d'avancer. Hein?
Ben, c'est ça. Ouais. Puis étape par étape. Donc, t'as Berthier. Puis Berthier, pour moi, c'est Gilles Villeneuve. Puis c'est et puis après ça, c'est Saint-Cudbert, mm-hmm. c'est Jacques Villeneuve, son frère.
Ah, oh, c'est tes étapes à toi, finalement.
C'est-à-dire que j'ai droit quand même à mon petit monde un peu.
Oui. Chaque Grand Prix a ses étapes.
Après ça, tu as la nouvelle halte routière. Oui. Quand je fais de la moto, j'arrête là. Mm-hmm. Après ça, tu as Trois-Rivières. Puis après ça, ben le petit bout Trois-Rivières-Québec, c'est pas... Puis là, ben si tu veux, quand tu es en moto, tu sors le long du fleuve.
Oui.
Là, tu fais la 138 mm-hmm. dans le bout de Deschambault et tout ça.
T'es pas en moto aujourd'hui?
Saint-Roch-des-Carrières. Non, je suis pas en moto aujourd'hui.
Non, hein?
Parce que
Je suis avec une
passagère.
Pas une amatrice du scooter à côté de ce que je comprends. Là.
Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être même pas fait ça tout seul parce que je suis encore un peu en récupération du Grand Prix.
Ouais.
Et puis, je suis pas patient aujourd'hui. Alors, quand tu fais de la moto ou de l'avion comme à l'époque, il faut que tu sois dans le bon état d'esprit.
Ben, j'ai fait un peu de circulation ce matin. Comme tout le monde, je fais mes commissions parce que tout est fermé demain. Puis, comme tout le monde, j'ai allumé à dernière minute. Donc, c'est plein de monde à l'épicerie, c'est plein de monde à SAQ, c'est plein de monde au centre d'achat.
C'est fermé demain.
Oui, oui.
C'est pour ça.
Mais il y a un certain taux d'agressivité, là. Je trouve qu'il n'y a personne de patient, puis tout le monde prend des chances, puis tout le monde perd patience parce que tout le monde prend des chances. Alors que, je sais pas, il fait beau, c'est à Saint-Jean. 80 % du monde est en congé. On devrait te chiller un peu. Mais on dirait
je suis d'accord avec toi, mais on dirait qu'on n'est pas encore sorti de la pandémie.
Non.
On est encore dans nos... c'est pas nos vieilles habitudes, c'est des nouvelles mauvaises habitudes.
Ah oui, on savait vivre avant, Pierre.
Exactement. Ben, un peu.
Un peu plus. C'est à faire.
On dirait qu'on n'en est pas sorti.
Ouais.
Soyons patients, ça va venir un jour. Mais on est tellement content de vous retrouver ici, parce que je suis avec Lynn, ma partenaire de vie depuis 5 ans. Puis imagine-toi, Lynn est de Québec. C'est la première fois qu'on trouve le temps de venir à Québec.
Tabarnouche.
En 5 ans.
Ensemble.
Ben, la pandémie nous a comme aussi un peu...
Évidemment.
Ça met des bâtons dans les roues. Hein?
Placardé,
ouais.
Un peu comme tout le monde. Alors, ça fait un peu drôle de dire que c'est la première fois en 5 ans.
Votre première date à Québec?
Vrai.
Génial.
Puis on va la passer avec vous, imaginez.
Ben, là, je me sens quasiment trop. Là. On peut sortir le vin puis s'en aller. Là.
Non, on va
on va fermer les caméras.
Non, nous, on est ouverts. On est ouverts au partage.
Hey, mais pour vrai, merci de venir vous installer avec nous autres. C'est super le fun. C'est une première parce que tu es déjà venu puis j'étais pas là.
Ben, je suis venu parce
que... Il s'est pratiqué sans toi.
Humblement, j'ai tenu à prendre ta place. J'ai voulu être le lanceur de relève. Ou comme on dit en lutte, j'ai voulu être ton
tagué.
Partenaire.
Ben oui, t'as alors, été mon Samy.
Tu m'as fait le tag. Alors, mettons que t'étais Samy, tu m'as fait le tag. Et puis moi, je suis rentré et j'ai éclairé la place.
T'as tellement bien fait ça, en plus.
On appelle ça le hot tag, hein, techniquement. Quand tu désespérément au bout de ton énergie.
Ça prend une demi-heure. Puis après
quand l'autre rentre, quand Kevin rentre, il rentre comme un train.
Lynn a vécu ça pour la première fois de sa vie, dans les premières rangées, imagine-toi.
Ben oui. C'était le pay-per-view du Elimination Chamber qui se déroulait du côté de Montréal. Puis c'est drôle parce que moi, je l'écoutais avec mes garçons chez nous. Puis on t'a spoté tout de suite au début du gala. Fait que moi, je savais t'étais de quel bord.
Mais là, quand tu m'as écrit ça pendant le gala, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'espère que j'ai pas été trop hystérique. J'espère que j'ai pas fait honte à personne.
Ben »
Parce que écoute, j'ai tellement embarqué, ben, pas tout seul, même Lynn aussi, on a tellement embarqué dans tout ça que je me suis complètement oublié.
Et j'ai joué le jeu.
Puis, c'est un défoulement.
Mais je t'ai jamais vu hors de contrôle. Je t'ai vu de bout à un moment donné. Tu disais, pardon, Pierre, il serait si pas. Pour moi, il y a du fun.
Ben, écoute, j'étais prêt à intervenir s'il fallait que j'intervienne.
Ah, OK, oui.
Peut-être que je fais partie du scénario, puis ils me l'ont pas dit.
Si Samy perd le contrôle de la game, moi, je vais être pas loin avec ma chaise. Puis
surtout que j'avais ma chaise, puis je suis reparti avec ma chaise.
Ben
tu l'avais dit.
La fameuse chaise souvenir.
Oui, la chaise souvenir.
Alors... Ici, par contre, je vais te demander de laisser nos chaises. On n'en a pas beaucoup.
Le mobilier est rare.
Juste en trouver une de plus, ça a été une aventure.
Écoute, on est pareil à RDS, faites-moi ça. On court après tout.
Ah, pour vrai?
Est-ce que notre studio est plus grand ou plus petit que le studio moyen de RDS? Parce que moi, c'est tout le temps quelque chose qui me fascine. À TV, tout a de l'air grand.
Oui.
Puis quand tu te retrouves dans la réalité, tu te dis, ben oui, mais... C'est pas le même studio parce qu'à la TV, ça paraît immense alors que c'est beaucoup plus petit qu'on pense.
En fait, c'est qu'on a un grand studio au rez-de-chaussée qui est un studio
multifonction. OK.
Oui. Alors donc, quand tu regardes Alain qui fait les entractes, c'est un tiers ou un quart à peu près de la surface.
Ouais.
Et ce mobilier-là est toujours en place.
OK.
Marc Labrec qui fait hockey 360.
Oui.
Est en face de cet endroit-là. Donc, l'autre quart de la surface et ce mobilier-là reste là. Et on a maintenant des caméras sur rails qui font des beaux effets visuels. Et donc, les rails se promènent entre ces deux plateaux-là. Studio 10. Il y a un mur que tu peux fermer ou non, ou que tu gardes ça ouvert. La plupart du temps, on le garde ouvert pour l'aération et tout ça. Et là, tu rentres sur le plateau 11 qui est les deux autres quarts de la surface, donc la moitié de la surface. Et là, tu as le grand pupitre derrière lequel on fait la F1, derrière lequel tu vas me voir samedi prochain pendant 5 ou 6 heures là, pour les joueurs autonomes. Donc là, c'est vraiment un grand plateau. Ça nous permet d'utiliser la Jib, la caméra Jib, là, la caméra qui est un peu télescopique, si tu veux. S'il y a un terme français, je suis désolé. Là, on appelle ça la Jib, nous autres.
C'est peut-être le nom de la caméra
ou la marque.
Ou... Ouais,
exact.
C'est
Mais c'est vraiment la caméra télescopique. Donc, l'opérateur de caméra regarde un écran et tu peux faire tous les effets là, de profondeur, en hauteur, plus bas. Donc, on a cette surface-là. Et en haut, des fois, quand tu nous vois dans un studio plus... Mettons, Yvan et Hélène, par exemple, tu vas les voir là souvent.
Okay.
Ce sont des studios qui sont à peine plus grands qu'ici. Peut-être un tiers de plus pour avoir le dégagement de la caméra, pour avoir les éclairages. Et là, on a les studios 20 et 21 qui nous permettent. Et on a aussi en appoint des petites cabines de son qu'on a récupérées des Jeux de Vancouver. On les avait créées pour Vancouver. Et là, si on a seulement de la description à faire, si on ne va pas à l'écran, en général, on va dans ces petites cabines. Mais au début d'RDS, on avait le studio où on faisait les nouvelles, Sport 30, qui était un peu plus grand. Mais le studio où on décrivait la F1, c'était à peu près la grosseur d'ici.
Okay.
Il y avait une caméra télescopique, téléguidée en fait, télécommandée depuis la régie. Et nous, on était assis, écoute, on n'avait pas de place, c'était tellement... On était comme dans un garde-robe. C'est pas
ben,
tellement
j'allais dire, vous aviez l'impression d'être d'un sous-marin, mais on me dit que c'est pas la bonne semaine.
Pas non, non, trop,
ok.
Trop tôt. Ouais,
on va laisser encore un peu.
Et puis, on n'avait pas vraiment de ventilation. Puis, à un moment donné, je disais à Bertrand...
Hey, sinon plus, ça tombe bien.
Non, mais c'est parce que Bertrand et moi, on aime... Nous, on a... On aime beaucoup David Letterman pour plusieurs choses, dont la température du Ed Sullivan Studio à New York, où il animait son talk show. Mm-hmm. Parce que Letterman adore avoir très froid dans son studio. Tu sais, il est comme moi.
On n'aime pas la chaleur. On est une couple de même, mais on n'est pas suffisamment nombreux ici, je te dirais.
Alors, et d'ailleurs, Véro et Hélène, puisque vous êtes les filles ici, il y a beaucoup de comédiennes ou de stars qui était invité à l'émission de Letterman, qui redoutait l'invitation de Letterman parce que si elle voulait porter les toilettes un peu plus sexy...
Ah, ben oui, hein.
C'était trop froid. Elles étaient frigorifiées okay, sur le plateau.
C'était ça qu'il voulait, Letterman. Je viens de comprendre.
Il voulait les chandails de laine.
C'est un vieux renard. C'est un vieux renard. Il savait ce qu'il voulait.
Je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait, mais apparemment que c'était très froid. Donc, nous, on n'avait pas beaucoup de climatisation dans ce petit studio d'origine. Puis à un moment donné, on dit, on va vous installer un ventilateur. Écoute, ça avait l'air d'un moteur de Dash 8. Ça faisait à peu près le bruit d'un moteur de Dash 8.
Ce qu'ils mettent en arrière des aéroglisseurs, là, ouais, c'est
pas,
ça.
C'est pas efficace pour faire de la télé. Là,
non, mais tu sais, dans les Everglades, là, tu vois le truc en arrière. Puis là, à un moment donné, on a tellement chaud, on part ça. Mm. Mais à l'époque, on revenait puis on repartait de la caméra ou non. Au gré du réalisateur. Et à un moment donné, on est sûr qu'on ne revient pas à la caméra, puis on décide de partir.
Mettre ça dans le tapis.
Puis moi, écoute, j'ai des feuilles. J'ai à peu près 25-30 feuilles devant moi, toutes mes notes. Puis, OK, attention, les gars, 3, 2, 1, on cam. Là, on revient à la caméra, puis le ventilateur est en main, et mes feuilles partent. Alors voilà, c'était ça les débuts, ouais. Le direct de RDS au début.
C'est drôle parce que, bon, il y a la guerre du feu, il y a la guerre des clans. Ici, c'est vraiment la guerre de l'air climatisé parce qu'on a deux studios qui sont identiques, à l'exception des couleurs. On a nos amis de week-end qui sont juste à côté dans un studio qui a exactement la même grandeur. Mais pour une raison qu'on ignore, les gens de week-end, eux autres, ils aiment ça avoir chaud. Et quand ils arrivent le matin, la gang de Martin Dallaire, ils montent leur chauffage dans le tapis. Et quand ils partent, ils laissent dans le tapis.
Ils ont déjà eu comme slogan l'été à l'année. Je dis que c'est peut-être un peu ça.
Tu peux animer ensoleillé avec de la clim. C'est ce que j'essaie de leur expliquer tranquillement. Sûr. Mais là, c'est rendu que moi, je me glisse en mode ninja dans le studio de week-end où j'ai pas d'affaires. Je vais baisser leur clim à eux autres pour être sûr que nous autres, on aille un petit peu de fraîcheur quand on embarque. Puis je suis sûr que les filles qui travaillent avec Martin Dallaire le matin font exactement la même chose dans notre studio. Ils viennent monter le thermostat une fois de temps en temps. Il y avait la guerre des codes d'écoute à une certaine époque, mais là, c'est vraiment rendu la guerre de l'air climatisé. Et aujourd'hui, Pierre, c'est exceptionnel qu'on ait un peu de climatisation parce que c'est une journée de congé et on est dans un building éco-responsable. Oh. Et il a fallu utiliser des patrons que je connaissais pour avoir accès aux propriétaires du building pour qu'on ait de la climatisation, parce que normalement, on n'aurait pas eu. Et donc, j'ai utilisé une patronne récente de l'univers de Boulevard 102.1, une ancienne assistante directrice des programmes par intérim, parce qu'elle n'est plus par intérim. Elle a eu la confirmation de son poste
permanent.
C'est
comme les entraîneurs qui viennent en cours de saison.
Ben, c'est comme le Martin Saint-Louis de la gang.
Puis à un moment donné, on décide de les prolonger à long terme.
C'est notre Martin Saint-Louis, c'est notre Bruce Cassidy,
même
c'est
grandeur,
Véronique Bergeron.
Mais félicitations, Véro, vraiment, wow!
Puis maintenant, on lui donne des missions d'importance comme s'assurer qu'il y ait de la climatisation quand on reçoit du monde. Et aujourd'hui, Véro, ben mission accomplie.
Quasiment accomplie.
Ouais, c'est vrai qu'on est à 24-5, hein? Ouais, ça va être une aventure.
Ah, mais écoute, c'est pas si mal. À RDS, je vous fais une anecdote. On est dans une situation un peu semblable à un moment donné. Et on est sur le fameux grand plateau en bas. Mm. Et on a tous un peu chaud. Et Benoît Brunet a particulièrement chaud. Et il dit, bon...
Ben, c'est un gros bonhomme, hein?
Alors, Benoît, il demande au réalisateur ou à un de nos techniciens où sont les contrôles d'aération et tout ça. On lui dit, ben, on pense que c'est dans le garage intérieur. Alors, Benoît a réussi à aller dans le garage en bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a réussi à partir de l'air climatisé. Imagine-toi.
Il est allé jouer dans un contrôle.
Il est allé jouer dans un contrôle. Il a trouvé quelque chose. Oui, mais... il a fait un plus un deux, puis il a regardé les conduits, puis il a réussi à partir du système. Puis tout d'un coup, on a fait « Ah, mon Dieu, on est
mais,
beaucoup
mais,
mieux. »
Mais vous autres, avec la chemise, puis le nœud cravate, puis le jacket par-dessus,
gestons,
ça doit, ça doit être l'asile.
Surtout les éclairages.
Ben comme... oui. Ah,
ouais. Et dans nos cabines du Grand Prix la semaine dernière, justement, c'est qu'il y a eu un bris de... Il y a eu un bris de fonctionnement. Non seulement la clim n'a pas fonctionné le vendredi, mais...
En même temps que les caméras de sécurité.
Non, mais le chauffeur, oui.
C'était toute la même breakout.
En fait, c'est, la, c'est comme dans le film de Noël. Là,
oui, 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 ça fait des boules.
Bon, une switch.
Voilà. Et le chauffage fonctionnait, en plus. Bon. Puis à un moment donné, écoute, on est en onde et t'as beau te mettre de la poudre et puis t'as beau faire tout ça.
Ça a ses limites. Hein?
Écoute, j'étais vraiment trempé complètement. Et le lendemain, on a appris que non seulement la clim ne fonctionnait pas, mais que le chauffage fonctionnait toute la journée dans notre cabine.
Aïe, aïe.
Alors, puis on avait vécu à l'époque dans la vieille tour de bois dans laquelle on travaillait. Tu parlais de la guerre avec vos voisins de week-end.
Mm-hmm, oui.
Nous, c'était la guerre avec les Brésiliens parce que c'était nos voisins.
OK.
Puis nous, tu sais, quand il fait 21, 22 degrés, on a chaud.
Il fait chaud, mm-hmm.
Eux autres, ils gèlent à 21, 22 degrés. Et il y avait un seul thermostat pour tout l'étage. Puis à un moment donné, on revenait. C'était monté à 25. Moi, je redescendais ça à 18. Une heure après, c'était remonté à 25. On redescendait ça à 18. Là, on comprenait que c'était nos voisins qui n'étaient pas capables de tolérer l'air climatisé.
La guerre Brésil-Canada.
Heureusement, sur trois jours, ça
va. Hey Pierre, on est super content de te recevoir. Puis les gens qui sont sur le Twitch, les gens qui peuvent nous écrire par texto, si vous avez des questions, toutes catégories confondues, oui, oui, oui. Gênez-vous surtout pas. 88-971-1021 pour nous rejoindre. On est en mode très relax aujourd'hui, mais il y a quand même quelques trucs à faire. C'est vendredi, Véro, ouais. Journée de nouveautés. On va faire le tour. Les nouveautés cinéma, les nouveautés streaming, les nouveautés musicales également. On va se jaser. Ah ben oui, c'est vrai, on a de la visite tantôt également. Ce studio-là va déborder. Émilie mm-hmm. du Chaloux Grand Marché qui va venir nous présenter quelques suggestions de produits pour en fin de semaine. Puis je pense que tu as vu Émilie lors de ton dernier passage.
Oui, absolument. Oui. Charmante.
Elle a retenu certaines choses que tu lui as dit et elle a préparé une chronique juste pour toi aujourd'hui.
Pour vrai.
Je t'en dis pas plus.
Okay.
On va découvrir ça ensemble tantôt. On va lancer le volet musical de votre vendredi après-midi avec une nouveauté. On l'a reçu cette semaine. Deuxième extrait du nouvel album de Fall Out Boy qui reçoit d'excellentes critiques. D'ailleurs, le Rolling Stone, qui parle jamais de rock ou à peu près, a fait une compilation des meilleurs albums de 2023. Il y a 150 albums, il y a deux albums rock. Il y a les Foo Fighters et il y a Fall Out Boy. Hold Me Like a Grudge à Boulevard. C'est Gravel dans le retour avec Pierre Houd. C'est la nouveauté de Fall Out Boy. Ça s'appelle Hold Me Like a Grudge. Votez pour vos nouveautés. N'oubliez pas, vous êtes chez vous à Boulevard. Vous mettez ça à votre goût. BLVD.fm, section musique, section nouveautés. Véro, on a fait le tour des nouvelles chansons proposées, entre autres, sur le radar hier. Nouvelle tune de Corey Taylor, pas en mode Slipknot, pas en mode Stone Sour.
En mode solo.
Mais vraiment en mode solo, pas méchant du tout, du tout. Il y en a quelques-unes à découvrir. BLVD.fm, section musique, section nouveautés. C'est exactement le même chemin sur l'application Boulevard. D'ailleurs, si vous faites de la route en fin de semaine, la meilleure musique de la business, c'est à Boulevard. Fait que si vous voulez nous traîner, c'est avec l'application que ça se fait. Très bien.
On a des petits clins d'œil Saint-Jean, d'ailleurs, demain.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. On dédie chacun nos chansons.
Nos petits coups de cœur.
Oui, nos coups de cœur, exactement. Hey, Pierre Houd est avec nous autres en studio. On va jeter un œil à la circulation parce que Sam, déjà, ça se complique. En fait, c'est compliqué depuis ce matin. Là.
Assurément, juste pour vous dire qu'il y a eu un accident sur autoroute Henri IV, direction nord, à la hauteur du chemin Saint-Louis. L'accident est terminé, mais ça a créé des dommages. Donc, la circulation est au ralenti présentement jusqu'au pont Pierre-Laporte. Je vous dirais que c'est sur Robert Clich pour vraiment aller chercher justement le pont Pierre-Laporte que là, ça semble bien bouché. Et sinon, c'est sur l'autoroute 20 en direction est qu'on va avoir un ralentissement à la hauteur de l'avenue Taniata, puis ça va se prolonger quasiment jusqu'au chemin des Îles. Donc, un petit peu de patience pour les déplacements de la Saint-Jean.
Comment ça a été ton Grand Prix de Montréal, Pierre, ta fin de semaine? Comment tu l'as vécu? Tu me disais en rentrant en studio que tu étais encore un peu sur le coup de fatigue de tout le grand cirque de la F1.
Oui, bien, c'est assez... comment dire? C'est comme nos mini-Jeux olympiques. Mm-hmm. C'est sur quatre jours, mais quatre jours, mais c'est 5-6 dans le fond, là. Parce qu'il y a beaucoup de travail de préparation à faire. Mais à partir du jeudi matin, très tôt, on arrive sur le site, on arrive sur le circuit, on a des émissions spéciales le soir, on a des entrevues à faire le jeudi. Donc, on est en mode, là, on est en opération. Et c'est toujours comme, un peu comme sur un fil de fer. C'est-à-dire qu'il y a un côté du fil de fer, tu dis et que je suis heureux et que je suis content de revivre tout ça, et que c'est donc passionnant encore, c'est mon univers, c'est presque mon chez-moi. Puis tu sais très bien que le lundi, tu vas avoir, j'en parlais avec Lynn, c'est pas seulement de la fatigue, t'as comme un vide. Puis le vide...
Ça manque, lui.
Oui, ça manque. Je le vis deux fois dans une année. Je le vis après la fin de la saison du Canadien, donc mi-avril. Et ça, vraiment, le lendemain, là, tu fais « Oh, ça se peut pas, tu cherches quelque chose. »
Les blues, ouais. Là, c'est un sentiment de...
De vide.
De vide, ouais, c'est
ça. Je l'explique souvent à ceux qui font ce que j'appelle l'horaire de remplacement d'été en radio, parce que je l'ai fait pendant de nombreuses années.
Et moi aussi.
C'est des gens qui se retrouvent avec des tâches qu'ils habituellement n'ont pas. Fait que c'est un gros rush de quelques semaines. Ils trouvent ça dur, ils dorment pas beaucoup, sont stressés, ils trouvent que c'est de l'ouvrage, ils ont hâte que ça finisse. Et la journée que ça finit, là, tu te dis, Moses, je commençais à être pas pire. Je commençais à pogner le beat un peu, puis là, t'as le manque. Là. Ouais. Quand tu retournes à ton horaire normal, quand tu retournes à ta routine d'avant, on dirait que tu vis un gros moment de rush, puis après ça, t'as le moment... Dans le fond, ça doit être comme prendre du crack, là, quoi que j'en ai jamais pris, là, mais
le wannabe junkie?
C'est ce que des amis m'ont dit.
Je peux pas vraiment commenter là-dessus non plus. Mais y a deux moments. Il y a le dimanche soir, parce que nous, maintenant, on a aussi une émission spéciale que l'on crée, qu'on a enregistrée dans ce cas-ci à cause de l'Omnium des États-Unis au Golfe, qui était à Los Angeles. Donc, on termine vraiment autour de 20h, 20h30. Donc là, tu as un premier vide. Tu reviens chez toi, puis là, ben, t'es même pas fatigué, t'es comme dans un état second.
T'as-tu un rituel?
Ah, oh, une bonne bière, puis un bon 11,5 à côté.
Oh yes, OK.
Comment ça me connaît?
J'aime
le chasseur, comme on dit en bon français, un bon chaser.
C'est bon.
Et c'est ça. Et puis là, tu veux pas te coucher. Et puis après ça, tu as le lendemain, le lundi. Bon, historiquement, je vais me trouver une terrasse à Montréal et je m'étends. OK, je recommence.
Il prend plusieurs tapes, il se couche dessus. Ouais, c'est fantastique. Ouais.
Chez Alexandre, Alain Creton est bien content d'avoir eu. Il dit, on a fait ton lit, si tu veux t'étendre sur la terre.
On le sort en faisant le ménage à 4h du matin.
Oui, je disais ça au sens figuré, évidemment. Je m'accroche, disons. Mm-hmm. Et puis, ben là, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas fait ça cette année, parce qu'on devait aller voir un médecin avec Lynn. Mais toujours est-il qu'il y a deux moments de vide comme ça. Puis après ça, ta vraie fatigue physique, elle ressort le mercredi, peut-être. Et là, j'ai fait mercredi soir, j'ai fait ma thérapie, dont je vous ai si souvent parlé. Je l'ai refait encore. J'ai écouté mon show Refuge. J'ai écouté mon show Mac and Cheese.
Ouais.
Mon show...
De confort.
De confort. Phil Collins à Bercy. Son vrai show d'adieu.
Ça t'a tout replacé.
Puis je me suis dit, je vais en avoir assez à la moitié. Et non, je me suis rendu jusqu'à la toute fin.
On dirait que depuis quelques années, Pierre, il y a beaucoup de critiques autour de la F1, particulièrement à Montréal. Est-ce que ça t'atteint?
C'est vrai, on voulait parler de F1, ouais. Désolé.
Est-ce que ça t'atteint puis est-ce que ça t'agace?
Non, parce que je trouve que les critiques sont justifiées. Et moi, en vieillissant, je suis de moins en moins blanc ou noir. Hein, je suis de plus en plus ouvert et je suis de plus en plus compréhensif sur différentes positions, en autant qu'elles soient articulées et que les positions reposent sur quelque chose. La F1, telle qu'elle existe présentement, qu'on puisse avoir des bémols sur la pertinence de ce sport, je comprends très bien d'où viennent les bémols et je suis moi-même assez promoteur d'une F1 qui doit faire tous les efforts possibles pour contribuer éventuellement au mieux-être de la planète, à commencer par le calendrier qui n'a aucun sens sur le plan géographique.
Ça va se faire, là, éventuellement.
Oui, ça va se faire. Oui. Ça va se faire parce qu'on en a parlé avec François Dumontier. C'est que ça va se faire, tu n'as pas le choix de le faire, mais il faut que les promoteurs mettent un peu d'eau dans leur vin.
Parce que pour ceux qui suivent moins ça, la F1, quand il y a des Grands Prix, puisque maintenant, il n'y a plus qu'un Grand Prix en Amérique du Nord, ils ne font pas un après l'autre.
Non.
Ils se promènent partout dans le monde. Ils ne prennent pas le plus court chemin,
Ils viennent trois fois en Amérique. Parce que tu viens à Miami en mai, tu viens d'Azerbaïdjan, puis que ce soit Bakou-Miami ou Bakou-Montréal, comme on a vu dans le passé, c'est 11 heures de vol. Mm. C'est beaucoup c'est beaucoup d'énergie gaspillée. Puis après ça, tu retournes en Europe. Puis après ça, tu reviens à Montréal. Puis après ça, tu reviens en Amérique. Les Amériques, mm-hmm. pour Vegas, Mexico, enfin Austin, Mexico, Brésil, Vegas. Donc, il y a un peu un non-sens géographique. On veut regrouper pour moins d'énergie gaspillée. On veut regrouper. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par contre, moi, je pense que la F1 doit servir, outre le divertissement et le sport, parce que c'en est un divertissement et c'est un sport organisé, c'est que la F1 doit aussi permettre de développer des énergies propres qui seront alternatives à l'électricité. On ne peut pas électrifier tout le parc automobile du monde entier en 5 ans.
On a de la misère à faire le nôtre.
Puis ça sera peut-être même pas possible de le faire simplement parce qu'il y a des pays qui peuvent pas subvenir à cette demande énergétique-là de toute manière.
Et qui polluent davantage s'ils veulent en produire.
Exact.
On y arrivera pas. Donc, ce qu'on doit chercher, ce sont des solutions pratiques, des solutions pragmatiques pour réduire le carbone à zéro. La F1 s'est engagée d'ici 2030 à le faire. Puis la prochaine grande étape en 2026, avec les nouveaux moteurs et les nouvelles règles, ça va surtout toucher les nouveaux carburants. Quels seront-ils? C'est aux ingénieurs de le trouver.
Les fameux carburants synthétiques qu'on entend parler beaucoup.
Les
là.
Synthétiques, on veut s'éloigner aussi du biologique. Ce qu'on veut, c'est ne pas piger dans la banque alimentaire pour du biologique. Alors, donc, on veut aller vers le bio qui ne sera pas... Je sais qu'il y a un terme, puis je le cherche là. Mais un bio qui ne sera pas néfaste à la réserve alimentaire dont on a besoin sur la planète.
Ah, du compost! On va le faire avec du compost! Oui.
Ben, justement, non, parce que le compost, on est supposé l'utiliser à des fins de fertilité.
Oui, oui.
Alors, non. Donc, il y a quand même, un côté...
Recherche qui est important.
Exactement, qui est essentiel. La formule électrique a réussi à raffiner la batterie au lithium et sa durée de vie, puis la puissance qu'on peut en sortir. La formule électrique a sa justification, je pense, et j'en suis convaincu, mais la Formule 1 l'aura davantage d'ici quelques années à peine.
Puis si on regarde le Grand Prix en tant que tel que tu as vécu en fin de semaine passée, sur 10, tu lui donnes combien?
Ah, celui-là, je lui donne une très bonne note.
Oh!
Oui, une très bonne note, parce que on a eu ce que moi je prône depuis longtemps, c'est qu'on oblige chaque Grand Prix à avoir un minimum de 2 arrêts au puits. Quand tu as 2 arrêts, tu as de l'aléatoire, tu as des stratégies différentes, tu en as qui vont aller dans une direction plutôt que l'autre. Ça n'existe pas présentement en termes de réglementation. Mais ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'au Grand Prix du Canada, il y en a qui ont étiré ou concocté une stratégie d'un seul arrêt. Ça a donné un résultat inattendu pour Ferrari. Tu es allé à 2 arrêts chez les autres écuries de pointe. On n'attendait pas ça. Donc, oui, Verstappen est le plus fort. Oui, la Red Bull est la plus forte. Mais ce que tu souhaites, c'est avoir au moins un enjeu jusqu'à la fin. Au moins avoir un enjeu derrière Verstappen et derrière Red Bull.
Mais ça,
c'est ce qu'on a eu.
Ça a bougé un peu, je veux dire, sur le premier tour, le tour de départ. Ça a brassé un petit peu en arrière de Verstappen.
Ça a brassé un petit peu. T'as eu une belle bataille entre Hamilton et Alonso. Écoute, t'as 9 championnats du monde, puis t'ajoutes les 2 de Verstappen en avant. T'en avais 11 dans les 3 premières positions au départ. C'est extraordinaire quand même. Et que Alonso ait terminé à moins de 10 secondes à la fin de Verstappen et de Red Bull, c'est encourageant. Puis là, Aston Martin est vraiment encouragé. On a trouvé le bon filon technique et technologique. Puis là, ben, on veut en rajouter pour les prochains Grands Prix. Alors, on a un bon spectacle. En fait, Montréal nous a donné un très bon spectacle.
En étant sur place, Pierre, tu vois des choses que nous, on ne voit pas et que même des fois, les caméras ne nous montrent pas. Je voulais juste savoir, par curiosité, l'oiseau qui a fait la moitié de la course dans l'essieu, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu peux nous qualifier l'état de ce petit poulet rôti?
Non, je peux pas vraiment te le dire, mais je peux te dire qu'il y a des chances que ce soit un carouge à épaulettes.
Ah, d'accord. Oh, okay. Est-ce qu'il y a une autopsie, quelque chose?
Pas que je sache, mais écoute, j'ai les yeux partout, mais je ne peux pas les avoir partout. Mais l'oiseau qu'on voit le plus à ce temps-ci de l'année autour du circuit, C'est l'oiseau avec une tache rouge. Mm-hmm. C'est un cas rouge à épaulettes.
Ouais, mais là, il était noir à grandeur. Oui, hein, quand
c'est,
pas... ouais,
c'est
ça. Ouais.
C'est... Était...
plus difficile à identifier.
Les épaulettes, t'es oui, tranquille.
C'est... mais qu'est-ce que tu veux? Ça... c'est malheureux, mais ça fait partie de... comme les marmottes. Il y avait encore la marmotte.
C'était l'année passée, oui.
Là, il y en a eu une autre encore qui est venue cette année, qui nous a salués. Alors, ça fait partie du folklore
ben
de,
oui.
de, du
ben
circuit.
Oui. Exact. 14h32, continuez de nous écrire. On a déjà quelques bonnes questions qu'on va se garder en banque au 418-971-102. Une courte pause, on revient.
Gravel, dans le rond, Pierre Audet.
À 14h38, 29 degrés à Québec, sous le soleil. Et oui, la circulation est épaisse dans la région Québec.
J'ai envie de vous dire que je suis optimiste présentement parce que l'accident sur Henri IV s'est résorbé et on voit une belle amélioration complète sur le réseau. Donc, Henri IV Nord et Sud, ça a l'air de mieux se déplacer que tantôt. Il reste encore un léger ralentissement sur l'autoroute 20 en direction Est, à la hauteur de l'avenue Taniata jusqu'à Chemin des Îles à peu près. Je vous dirais que ça ralentit. Mais sinon, là, ça va bien. Bravo.
C'était vraiment hier le pire. Aujourd'hui, en étant férié, il y a plein de gens qui sont partis ce matin, qui ont pris la route. Mais avec une journée comme celle-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes en quelque part puis tu ne bouges plus. C'est ça qu'on est en train de vivre.
Tu fais ton épicerie le plus vite possible parce que tu n'y as pas pensé avant. Ce matin, les épiceries débordaient de gens qui faisaient ça à la vitesse de l'éclair. Tu sais, d'habitude, t'attends, là. Avec ton chariot d'épicerie, là, mais aujourd'hui, t'attends pas, ça court des allées. Le monde a tellement hâte de sacrer le camp puis de profiter de la journée, et c'est compréhensible.
Les limes sont rares, hein? Il n'y a plus de limes, il n'y a plus de citron, on court. Là.
D'ailleurs, ça peut être étiré cette soirée-là avec un minimum de 17 degrés. Vous comprendrez que ça va rester très confortable. Puis pour la pluie, il n'y a pas de crainte à avoir, quelques passages nuageux. Tout au plus pour ce soir et cette nuit. Demain, on n'y échappera pas. Des nuages, des orages dispersés, 26 degrés le maximum. Dimanche, ce sera bien, du soleil, quelques nuages, 26 degrés. Les averses débutent lundi jusqu'à vendredi avec d'importantes quantités, les maximums entre 24 et 27 degrés. On va faire le grand tour de ce qui se passe et ce qui se brasse autour de nous autres et autour de vous autres dans l'actualité qui doit être un peu tranquille en ce 23 juin.
C'est effectivement tranquille, mais il y a des choses qui ne pèsent pas sur pause malgré une journée fériée pour plusieurs. Là, on n'a pas le choix de parler des incendies, de forêt, puis tu as fait la météo. Il y a encore des inquiétudes. Là, c'est la communauté crie de Mistissini qui a commencé à évacuer vers Chicoutimi. C'est pas leur village qui est menacé, c'est la route qui mène à leur village. Donc, plutôt que de les retrouver isolés, mais on les envoie vers la portion du Saguenay.
Est-ce que c'est la communauté qui avait dit non merci quand, quand le premier ministre François Legault leur avait demandé d'évacuer?
Oui. Il avait dit, c'est pas le... Je pense que c'est le chef qui avait dit c'est pas vrai que François Legault va décider pour nous autres.
Respectueusement, on connaît bien notre territoire, on est installé depuis plus longtemps que vous autres, on va caler la chotte pour quand partir, mais là sont en train d'évacuer.
Oui, puis on avait déjà commencé à évacuer des personnes âgées ou malades parce que tu sais en ayant un risque de déplacement, puis tu sais, c'est pas des autoroutes à quatre voies là, pour se partir de là. Fait qu'on a fait ça sur une plus longue période. Puis peut-être vous mentionnez aussi qu'il y a eu des modifications à l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité un peu plus tôt aujourd'hui. Grosso modo, là, je pense qu'à part Montréal puis la Montérégie, tout le reste du Québec, là, c'est pas de feu dans des foyers qui sont non conformes, pas de feu en forêt, pas de feu d'artifice, etc., etc., parce que le risque est beaucoup trop grand. Tu sais, il y en a qui disent « Oui, oui, mais tu sais, je m'en ferai pas des feux, je vais aller en forêt pareil, parce qu'il y a certains endroits où t'as pas le droit d'aller, surtout ce qui est territoire du gouvernement. Là, il y a des chalets de la CEPAC qui sont fermés. L'autre risque, c'est pas que vous mettiez le feu, c'est que vous restiez pogné là-bas si quelqu'un met le feu. Mais on dirait qu'on n'a pas cette vision globale-là, parce que tu l'as réservé, ton chalet, parce que t'es donc bien censé l'avoir ta fin de semaine.
On se sent impuissant comme des gens riches dans un sous-marin. Bon, c'est pas encore la bonne semaine, okay, c'est pas la bonne image. Là,
hier
bon.
Soir, je suis allée avec mes amis de filles, on est allé s'installer sur la terrasse de l'Emporium. Quelle soirée magnifique pour faire de la terrasse. Le nombre de jokes de mauvais goût, de sous-marins puis de submersibles toute la soirée. Puis je le sais, j'ai regardé les tables autour, puis je me suis dit, il y a au moins 50 % des tables qui font des jokes là-dessus.
On a fait la même chose. Je jouais aux cartes hier, on a juste épluché nos téléphones à découvrir les meilleures blagues de sous-marins.
C'est pas fin, là. On va brûler en enfer. La chaleur dans le studio, c'est l'enfer.
J'étais un gars d'humour noir quand même. Je vous cacherai pas que j'ai ri à quelques-uns d'entre eux.
Ça reste quand même le Titanic, le seul naufrage qui continue de faire des victimes des décennies après que le bateau ait coulé. Ça, c'en est une, il y en a d'autres.
Ça n'a pas de bon sens.
Là, j'ai vu, hein, c'est ça, c'était comme Titanic 2, Submarine 0. C'était ça le meme que j'avais vu.
Ouais. De mauvais goût,
C'est un peu... Je pense que ce qui a ouvert les vannes et comme... se donner la permission de faire des blagues de mauvais goût là-dessus, c'est quand on a superposé deux images cette semaine.
C'est quand celle des, tu mets le doigt dessus,
celle des centaines de réfugiés qui s'empilaient sur un bateau dans le secteur de la Grèce.
Avec des centaines de décès quasiment. Là.
Exact. Et on comparait la couverture médiatique de ces centaines de réfugiés-là qui étaient décédés versus tout ce qu'on a jasé concernant le submersible dans le secteur du Titanic. Bref, on referme la parenthèse.
Dans nos autres nouvelles, il y a eu le bilan de la SQ de son opération qu'ils ont effectuée à la grandeur de la province il y a quelques jours de ça. C'était le 20 juin. C'est 28 corps de police municipaux plus la SQ qui avait travaillé pour ça. C'est plus de 5000 constats d'infraction à la grandeur du Québec. Puis ça, c'est fou parce qu'à chaque fois, on est averti, mais malgré tout, il y a des chances qui sont prises. C'est beaucoup pour la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant. Puis on rappelle qu'on va cibler ces comportements-là tout au long de l'été. Et en plus de ça, en fin de semaine, c'est une longue fin de semaine, on le sait, il y aura déjà plus de surveillance sur les routes. Ça avait commencé hier en mi-journée, je vous dirais. Bonne nouvelle pour le camping, le Genévrier, on s'en était parlé quand il y a eu les inondations dans le secteur de Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, le Genévrier, qui est la propriété de la laiterie de Charlevoix, fait qu'eux autres, ils l'ont eu un peu rough dans cette période-là. Ils sont en mesure d'ouvrir aujourd'hui pour une partie du terrain. Si vous êtes passé dans le secteur, là, il y a des terrains qui ont été emportés par les eaux, mais là, c'est 40 à 45 % du site qui est accessible au public, fait qu'on se félicitait de ce côté-là, d'avoir réussi à pouvoir reprendre une partie des activités, non pas juste pour les campeurs, mais aussi pour les commerces qui sont aux environs, qui vont bien profiter de ces journées d'été-là où il y aura du camping qui va se faire. La commissaire à l'éthique dit qu'à l'Assemblée nationale, on n'est pas suffisamment conscientisé sur les enjeux et sur les formations qui sont disponibles. Pas de surprise qu'on parle de ça ces temps-ci. Disons que la CAQ a fait parler quand même pas mal. En fait, le ministre Pierre Fitzgibbon a fait parler pas mal. Il y a le ministre Simon-Jolin Barrette. Il y a aussi la ministre Duranceau du côté de l'habitation qui font l'objet actuellement d'enquête de la commissaire. Ce qu'elle dit, en gros, par contre, c'est que si les élus se mettent dans des situations problématiques, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les règles et non pas parce que c'est des mauvaises intentions. Puis nous autres, en tant qu'observateurs un peu cyniques de la politique, on a été nourris par tellement d'histoires que des fois, on se dit peut-être qu'ils prennent juste une chance.
Bien, on me dit que sur la patinoire, quand Brad Marchand dit aux arbitres « Excusez, je ne connaissais pas le règlement », ce n'est pas une excuse qui fonctionne très bien.
D'ailleurs,
il faut en trouver des meilleurs.
Elle, ce qu'elle suggère, puis je pensais que cette formation-là était obligatoire, ce n'est pas le cas. C'est une formation qu'ils prennent s'ils le veulent bien. Et c'est un peu ce qu'elle fait comme demande, que tous les élus prennent cette formation-là. Et en terminant, depuis hier, en fait, ça avait été annoncé pendant le budget de la ministre Freeland au mois de mars, là, mais il y a eu la sanction royale hier qui a été donnée. Le Canada qui interdit maintenant les tests cosmétiques sur les animaux. Je pensais que c'était déjà comme ça depuis genre tout le temps. Mais non, il faut croire que ce n'était pas encore le cas dans notre grand pays. On rejoint ici une quarantaine d'autres pays qui ont déjà arrêté les essais sur les animaux, incluant l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni.
On retourne sur les routes, Sam?
Oui, on vient de m'informer qu'il y a eu un accident sur Capitale direction Est à la hauteur de Beauport. Quand je regarde sur la carte, ça a l'air d'être entre l'avenue Bourg-Royal et la rue Seigneuriale. On me dit qu'il y a beaucoup de pompiers sur place et qu'il y aurait une moto d'impliquée, donc c'est bien bouché présentement.
Le 418-971-1021, s'il y a quoi que ce soit d'autre, et soyons proactifs. Vous pouvez passer par le Facebook et l'Instagram également de Boulevard 102.1 ou on est sur le Twitch, twitch.tv, sur la chaîne BLVD, barre en dessous FM, avec notre invité Pierre Houde. Et d'ailleurs, on a quelques très bonnes questions qui sont rentrées dans les dernières minutes et on va en lancer quelques-unes tout de suite après The Offspring et Let the Bad Times Roll.
Gravel dans Le Retour. L'heure de retour. L'heure de Boulevard 102. Boulevard 102. Avec Denis, Véro, Pierre-Audet.
3h-10. Hey, vous êtes nombreux, c'est le fun, autant sur le Twitch que par les textos. On avait l'impression que tout le monde allait faire du patio cet après-midi, mais clairement, vous n'êtes pas loin du cellulaire ou du portable. Et pour les valeureux qui travaillent, nous autres, on travaille pas vraiment, on relaxe. Je veux dire, Pierre Houde est avec nous autres en studio, puis C'est comme un vendredi de vacances, ou à peu près.
Vendredi.
Ben oui, ben oui. Mais vous êtes nombreux à avoir lancé des questions à Pierre. Et c'est toujours le fun de revenir sur certains sujets. Puis, comme je disais un peu plus tôt, là, c'est carte blanche. Hein, ça peut être sur la carrière de Pierre, ça peut être sur la F1, ça peut être sur le hockey, ça peut être sur la NFL, ça peut être sur ce que vous voulez. Et je veux retrouver une question que j'ai vue passer tout à l'heure, Pierre. Dans sa vénérable carrière, y a-t-il un ou des moments où il n'a pu retenir une larme ou d'exprimer sa joie et son émerveillement devant un événement sportif alors qu'il en était le descripteur?
Une larme, une larme de joie ça ou d'émerveillement?
Ça peut être tout.
Tant que ça pleure.
Un bout d'émotion.
Ben, écoute, c'est pas trop difficile pour moi. Ça m'est arrivé souvent à votre propre émission.
Ben oui, ben oui.
Véro et Denis. Ben, je suis un très grand sensible, et ça, je le sais, je l'assume. Mais par l'événement que je couvre, je pense que c'est ça la question. Mm-hmm. Évidemment, la course où Greg Moore est décédé en piste, pour moi, ça a été extrêmement difficile de ne pas retenir mes larmes parce que, d'abord, tu décris la course en direct. Donc, déjà là, on n'est pas formé pour ça.
Hein? Ouais.
C'est pas prévu. Nous, on est supposé décrire ce qui nous émerveille et on est supposé décrire les exploits sportifs. Et Greg, en plus, je le connaissais personnellement parce que j'étais professeur d'entrevue pour les pilotes de la filière Players à l'époque. Alors, trois, quatre fois par année, on réunissait les pilotes de la filière Players, parce que oui, ça existait à l'époque, pour les plus jeunes. Un cigarettier pouvait s'afficher.
Oui, puis il s'affichait.
Ben, c'est parce qu'il restait à peu près que ça. Hein.
Ben,
il
n'y
avait
oui.
plus de publicité traditionnelle.
C'est vrai.
Et bref, on travaillait ensemble la technique d'entrevue, les scrums, les entrevues personnalisées, même les entrevues avec journalistes de la presse écrite, parce qu'il y avait quand même des sujets délicats, dont le tabac, évidemment.
Ben oui.
Et comment réagir, comment se comporter, comment se tenir, la pose de voix, si vous avez un discours à prononcer, comment le faire. Et on avait eu une formation que j'avais donnée à Greg, à Alex Tagliani, à Patrick, Jean-François Dumoulin. Enfin, il y avait quelques autres pilotes dans la filière. Et arrive la course de Fontana, que je décris en direct. Scrannon est là-bas, Didier, comme reporter sur le terrain. Et qu'est-ce que tu veux? On vit le décès de Greg en direct. Il n'a jamais eu de chance de s'en tirer quand il a quitté la piste à Fontana. Et habituellement, un pilote sera transporté au centre hospitalier le plus proche. Et à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons légales et tout ça, le décès, quand ça arrive, heureusement, ça n'arrive pas souvent, le décès est, à ce moment-là, annoncé seulement par le centre hospitalier où le pilote a été transporté.
Ton gut feeling, le savais-tu
j'étais
sur
sûr,
le coup? Oui.
J'étais sûr. J'en ai vu des accidents dans ma vie, mais là, je me disais, c'est impossible. Et là, pour une fois, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu venir, c'est que le docteur Trammell, tout de suite, on a transporté Greg au centre médical sur le site de Fontana. Et le docteur Trammell, qui est peut-être encore même le médecin chef de l'Indycar, est ressorti du centre hospitalier sur le site et il a déclaré officiellement la mort de Greg Moore. Et c'est parce que là, on espérait quand même qu'il s'en tire, mais on ne pensait pas que ça allait arriver de cette façon-là parce que ce n'est pas comme ça. Si tu te rappelles, Gilles a été quand même transporté à l'hôpital de Zolder. Même Senna, on savait sur la piste, il a rendu l'âme sur la piste. Le docteur Watkins l'a expliqué par la suite dans le documentaire. Mais ça ne se fait pas traditionnellement de cette façon. Moi, ça m'a complètement foudroyé. On a été obligé d'aller à la pause. Et mon réalisateur a été très correct. Et Didier se sentait tout aussi ému à l'autre bout. On a demandé quelques minutes avant de reprendre le reportage et on l'a repris. Puis tu sais qu'est-ce qui m'a aidé à le reprendre? C'est que le coéquipier de Greg, c'était Patrick. Et Patrick ne savait pas, lui. Mm. Et à un moment donné, on a dit à Patrick, reviens au puits. Patrick n'est pas retourné en piste, mais on s'est dit, il y a quand même Patrick qui est là. Et puis, il faut faire notre métier. Et on peut pas se laisser effondrer par ça. Alors, le moment, pour moi, le plus triste en personne, ça a été certainement ça. À l'autre bout du spectre, ce qui m'émerveille dans l'autre sens, c'est une médaille olympique. Mmh. Quand on remet une médaille olympique, et particulièrement quand ce sont des athlètes de chez nous, vous m'avez vu craquer en direct quand De Grasse a réussi à obtenir sa médaille d'argent à Rio. Et puis là, j'ai pensé à Garneau. C'est ça qui m'a fait craquer. C'est pas De Grasse, mais c'est Garneau. Puis c'est tout le... Il y a tout cet aspect magique des Jeux olympiques. Puis quand l'hymne national puis le drapeau monte, écoute, ça a beau pas être ton pays, ça a beau pas nécessairement être ton sport de prédilection, parce que tu couvres ce qu'on te demande de couvrir.
Ouais.
C'est difficile de trouver quelque chose de plus émouvant dans le bon sens là, qu'une médaille olympique.
Puis le côté rituel et solennel de la chose, ça rend ça plus grand que nature aussi.
L'hymne olympique.
Ouais.
L'hymne olympique. Et si Garneau était ici, parce qu'on en parlait tellement souvent à nos derniers Jeux ensemble, il disait, c'est pour ça qu'on s'entendait si bien, on parlait de tout ça, puis je disais à Garneau, j'ai toujours envie de pleurer à l'hymne olympique. Ben, t'en fais pas, mon vieux, je suis comme toi. Alors, vas-y, écoute, c'est ça la magie. Puis le cavalier nous disait tout le temps de se laisser aller à ça, parce qu'il disait, c'est votre nourriture, c'est comme ça que vous allez avoir une carrière peut-être plus longue que d'autres. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être deux moments, là, le moment très, très, très triste et très dur de la mort de Greg, et le moment, je dirais, le moment heureux quand j'ai craqué en 2016. Là.
Pierre, je veux saluer un auditeur de longue date, André, qui...
Bonjour, André.
Il suit la F1 depuis 1996. Il a manqué une seule course et une seule qualification depuis. Et il veut absolument poser une question concernant Lance Stroll. Il dit, il est un très bon pilote pour faire partie des 20 pilotes actuels en F1, mais avec ses faibles résultats, si son père n'est pas le patron de l'écurie, est-ce que le fils serait encore en Formule 1? Est-ce qu'il survit en F1 à cause de son père? Il s'est toujours retrouvé deuxième face à son coéquipier. Je te transmets l'opinion d'André. Moi, je m'en mêle pas.
Bien, écoute, c'est une question et une opinion en même temps.
Ouais.
Et il n'y a pas nécessairement une réponse facile à tout ça. Moi, je vais te donner un exemple du pilote japonais qui est chez AlphaTauri, Yuki Tsunoda. Tsunoda... il est comme un chat. Pour moi, il est rendu à 9 vies. Pourquoi est-ce qu'il survit encore dans l'entourage d'AlphaTauri? Il survit encore dans l'entourage d'AlphaTauri, pour moi, plus que pour une raison. Mais il y a une raison très bonne. C'est un pilote très rapide. Et il a prouvé qu'il était rapide dans les phases de développement. Comme Lance a été champion de Formule 3, la Formule 3 globale, internationale, c'est quand même pas rien. OK, il y avait la meilleure voiture. Mais on connaît l'équation. Mmh. La meilleure voiture avec un meilleur pilote va gagner. La meilleure voiture avec un pilote pas bon gagnera pas souvent. Puis un pilote extraordinaire avec une voiture ordinaire gagnera pas souvent. Tu comprends?
Oui.
Donc, en sport automobile, ça prend les deux de nos jours. Bref, Lance a fait ça, Tsunoda a fait ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il reste? Bien, il reste beaucoup parce que dans le cas de Tsunoda, par exemple, la filière Red Bull est plutôt dégarnie présentement. Elle était très riche il y a quelques années à peine. Là, il n'y a pas grand monde dans la filière prêt à prendre la relève. Donc, il survit. Bien sûr, Honda, qui s'était, entre guillemets, séparé de Red Bull, bien sûr qu'Honda est encore dans l'équation. Est-ce qu'il faut sortir à 15 heures pile?
Non.
Parce que j'ai... Ça, c'est mon côté radio. Je regarde toujours le chrono.
Il n'y a pas de stress. Ah,
okay. Je présente Denis.
Non, c'est pas, je regarde
il est
ça,
chef mais... d'orchestre.
Hey, moi, j'ai travaillé réseau, hein, les nouvelles 15 minutes plus tôt.
Non.
Réseau, télémédia. Tu as dit que nous autres, le chrono, il fallait qu'on débarque.
Stresse-toi pas avec ça, c'est ma job.
OK, c'est mon sixième sens de radio. OK. Alors donc, je pense que dans le cas de Lance, c'est un peu la même chose. Présentement, les résultats ne sont pas à la hauteur de Fernando Alonso, mais tu parles quand même d'une référence qui est double champion du monde. Il lui reste des choses à développer. Il lui reste, entre autres, à apprendre à faire un tour rapide.
Mm.
Puis faire un tour rapide en F1, c'est pas juste d'y aller à fond. C'est de gérer les pneumatiques, s'assurer qu'il tresse des températures de pneus et qu'il tresse surtout une qualité de pneus pour la dernière portion d'un tour rapide. Il n'a pas encore tout à fait développé ça, mais il a une base de talent qui est indéniable. Et je pense que il faut être patient, il faut lui donner encore un an ou deux. Aux côtés d'Alonso, on pourra se reparler de ça dans un an, dans un an et demi. Est-ce qu'aux côtés d'Alonso, il a atteint, est-ce qu'il a appris, est-ce qu'il a maîtrisé ce qui peut faire de lui un champion du monde? Moi, je pense qu'il faut encore être patient.
Bibi qui nous écrit et qui a une question amusante parce que cette semaine, j'ai vu que tu as eu un échange Twitter avec Mathias Brunet de La Presse où j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Et Bibi pose la question, est-ce que tu aimerais animer, par exemple, une course de F1 avec ton frère? Et j'ai appris qu'en 1984, tu avais fait le Super Bowl en français.
Alors ça,
avec
c'est
ton...
Richard Labbé.
Ah, avec Richard Labbé, oui, oui. Pas Mathias Brunet, mes excuses.
Non, ben, c'est correct. C'est... ben, en fait, oui, c'est que moi, mes premiers pas au sport, c'est en 1978. J'ai été animateur à C'est quoi, en fait, le C'est quoi de Montréal, les fins de semaine. Et puis, dans une de mes émissions, entre deux disques, probablement entre René Claude et Frank Zappa.
un heureux mélange. Oh là là!
Non, j'étais peut-être un petit peu plus pop que ça, moi, le samedi matin. Mais entre deux disques, je fais un petit bulletin de sport. Mm. Et je reçois un coup de téléphone, puis tu sais, on répond une fois sur deux, une fois sur trois, question de savoir qui nous appelle. Et puis, c'est un réalisateur de Radio-Canada. Puis au début, je pense que c'est une blague, évidemment. Ben non, il insiste et insiste pour dire qu'il réalise, entre autres, le match de la NFL tous les dimanches, parce que Radio-Canada, malgré tout ce qu'on peut penser aujourd'hui, diffusait le match de 13 heures.
De la NFL.
De la NFL tous les dimanches. Et ce qu'on faisait à Radio-Canada à l'époque, c'était choisir un match qui pouvait avoir une signification particulière pour Montréal et pour le Québec. Donc, on allait souvent, je ne sais pas, on faisait souvent les Chiefs, Marv Levy, souvent c'était les Bills de Buffalo, souvent c'était les Steelers de Pittsburgh. Et à un moment donné, eux cherchaient des analystes plus jeunes qui étaient passionnés de football et ils m'invitent la semaine suivante pour être analyste à un premier match. Et le hasard a voulu que je me suis retrouvé là, aux côtés de qui? Aux côtés d'Yvon Pedneau, qui a été mon premier collègue pour le hockey RDS.
Vous remontez à loin, ben
78, oui. 78, t'imagines, avec Serge Orsenault, c'est le grand Serge qui animait les entractes. Et j'ai continué pendant un bout de temps. Puis après ça, Paul, ton frère aussi, c'est vrai, c'est un maniaque de football aussi. Donc Paul est venu. Et le Super Bowl dont je parlais, c'est que c'était les 49ers contre les Dolphins.
Oh mon Dieu, alors, son équipe.
Ben, son équipe, évidemment. Et puis moi, je vais jouer le jeu. Et je me rappellerai toujours, Paul portait le chandail des 49ers. Moi, je portais celui des Dolphins. Puis comme arbitre entre nous deux, ils avaient invité un passionné de football et un grand connaisseur, Jean-Paul Chartrand senior.
Aha.
Alors, le bon vieux Jean-Paul était entre nous deux pour jouer l'arbitre. Alors, on s'était retrouvés co-analystes du Super Bowl. J'ai fait ça jusqu'au milieu des années 80.
Ça ne doit pas être fréquent, des gens qui ont la chance de faire ça avec son frère. T'sais, c'est quand même une...
Puis je vais te dire une chose, on n'a pas travaillé souvent ensemble, Paul et moi. Écoute, on en est à 48 ans de métier au mois d'août. Là. Paul, ça fait 48 au mois de mai. Moi, c'est 48 au mois d'août.
La chicane poignerait.
Écoute, j'ai... À certains moments, j'ai été le patron de Paul.
OK.
À certains moments, j'ai été... un de ses collaborateurs. À un certain moment, j'ai été co-animateur. Mais si tu mets ça bout à bout sur 48 ans de métier, c'est très peu. Puis les gens... Là, on a une pression. On le sent. Les gens le veulent.
Uh-huh.
Alors, on a des places. On a une case horaire l'été. Qu'est-ce que vous faites, les deux?
Je vous donne pas de coup, mais on travaille peut-être, Paul et moi, sur un...
Ah, j'aime
sur
ça!
Une idée, sur un projet.
Ben, à l'époque, il y avait Paul et Paul, puis là, ben, on aurait Pierre et Paul. Ça serait le fun. Hein?
Il
y aurait peut-être... Écoute, il y aurait de l'humour là-dedans, c'est sûr.
Ben, il faut qu'il y ait de l'humour.
Oui.
Parce que ce qui a fait qu'on a réussi à cohabiter... D'abord dans la même chambre, parce que chez nous, on était trois enfants, mais on avait deux chambres pour les enfants. Donc, c'est sûr que c'était pas ma sœur qui était avec un de ses frères. Donc, Johan avait sa chambre, puis moi, j'étais toujours avec Paul.
Co-chambreur.
Si on a réussi à cohabiter, c'est parce que c'est l'humour qui nous a sauvé la vie.
Ouais.
Et quand on fait de la radio ensemble ou de la télé ensemble, ça ressort naturellement. Je ne sais pas si vous avez vu sur Urbania.
Mais oui, mais Pierre, voyons. Oui, c'est un de mes beaux moments à te regarder.
Ah oui, mais ça ressort naturellement. Mm-hmm. Alors, on se dit que si jamais on travaille ensemble un jour, il faut qu'il y ait de la place pour l'humour parce qu'on est deux caricaturistes. Puis souvent, Paul, quand il était très, très, très reconnu comme imitateur, moi, souvent, je lui refilais ma propre caricature pour qu'il l'exploite dans ses imitations. Tu sais, alors.
Mais je comprends, puis c'est une belle image. Vous avez commencé comme co-chambreur, puis vous avez cette complicité-là, mais je veux juste glisser comme ça que Mario Tremblay et Patrick Roy ont aussi commencé comme co-chambreur. Donc,
oui, mais...
ça finit pas toujours bien. Hein?
Mais ça s'est quand même replacé.
Oui, oui, oui.
Grâce à la pub de, oh. De quoi?
C'était DoorDash ou l'autre gang?
De livraison de nourriture.
On va y aller au sens large, oui.
Mais pour vrai, tu sais, des fois, la pub, ça nous tape ses nerfs à longue. Mais cette publicité-là, moi, je l'ai vue peut-être 400 fois, puis j'ai jamais été incapable de ne pas sourire.
C'est génial.
En regardant un coup de génie qui arrive dans un timing où les gars avaient peut-être besoin de ça aussi, de dire « Hey, ça va passer le message qu'on est passé à autre chose, mm-hmm. puis qu'on est capable de faire de quoi ensemble, de se faire un clin d'œil au passé, puis ainsi de suite. » C'était du génie, cette pub-là.
Tu sais que ce match-là qui a créé le divorce...
Celui des Wings et du Canadien.
Tu sais que je fais partie, à la radio anglaise, je fais partie d'un trivia chaque année. Hein.
Comment ça?
Je l'ai ça en t'écoutant avec ton ami Terry en podcast.
Tu sais qu'il décrivait ce match-là en anglais, à la radio anglaise?
C'était toi?
C'était moi.
Ah oui?
Oui, j'ai sauvé la vie... Enfin, la vie, c'est un grand mot, là. J'ai dépanné à 2 heures d'intervalle ou 2 heures d'avis, de préavis, la station anglophone qui diffusait les matchs du Canadien, CJAD, du groupe là, CJAD, CJFM et tout ça. Ils fêtaient les 50 ans de la station, puis ils avaient amené tous les animateurs en avion d'Olysée, je pense que c'était aux Bahamas ou quelque chose comme ça.
Wow.
Puis il y a un bruit mécanique sur l'avion. Puis, le descripteur de hockey, Dino Sesto, est dans ce voyage-là, puis il n'est pas capable de revenir. Et puis... L'autre solution,
c'est pas parce que tout le monde était chaud au Bahamas, là. C'est un problème technique, mécanique.
C'est l'avion.
C'est ce qu'on m'a dit.
Oui, oui, oui.
Moi, j'ai jamais posé de question.
C'est tout le temps ce que je dis en venant de Vegas. Je peux pas demain un bris mécanique.
C'est l'avion.
Oui, je comprends tout ça.
C'était l'avion ou le pilote, mais j'ai jamais posé de question. Et il y avait l'autre solution, c'était le vénérable Dick Irvin, parce que Dick collaborait aussi à la radio. Sauf que Dick, parce que c'est un samedi soir, sa responsabilité principale, c'est la soirée du hockey en anglais, Hockey Night in Canada. Donc, il n'y a personne pour décrire le match. Et puis, à l'époque, les cellulaires, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, on l'a dans la voiture. Mais finalement, le téléphone sonne. Il est 5 heures à peu près. Je suis à Terrebonne, imagine-toi. Je suis assez loin du centre-ville.
Ouais.
Et puis là, le téléphone sonne. Puis là, j'ai mes bottes. Puis ça ne me tente pas de salir le plancher. Finalement, je décide d'aller répondre. Là, j'entends un cri de mort. Oh, Pierre, merci, thank you. Merci, pourquoi? Tu vas nous dépanner, merci, je vais vous dépanner, pourquoi? Tu vas faire le match dans 2 heures. J'sais, comment je vais aller décrire le match dans 2 heures?
À Terrebonne avec mes bottes, non, moi, là.
Puis il y avait une tempête, j'ai dit, il n'y en est pas question. T'es notre seule solution, t'es notre seule... OK, je vais y aller. Et puis...
T'es allé à l'aréna?
Je suis parti, là, j'avais mon gros Rogers, mon Cantel, dans l'auto. Je pense que c'était
un gros carré.
Tu sais, la grosse affaire, là. Pip, 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 ça faisait un peu Batmobile. Là... Premier réflexe que j'ai, je téléphone à mon frère. J'ai dit, Paul, j'ai décrit les Red Wings il y a 2 semaines. J'ai de la viande sur l'équipe, mais peux-tu me donner quelques dernières nouvelles? Bon. Alors, Paul, il m'a accompagné pendant une demi-heure pendant que je m'en allais au forum. Écoute, j'ai pratiquement laissé l'auto dans un banc de neige. Je suis arrivé sur la passerelle du vieux forum, peut-être à 6h30, puis on devait prendre l'antenne à 6h50. En anglais?
Wow!
Alors là, j'ai fait, bon, ben coudonc, on y va, on plonge. Mais j'étais extraordinairement bien entouré. J'étais avec l'ancien gardien Jim Corsi.
Oui.
Jim, parfaitement trilingue, italien, francophone, parce que c'est un petit gars de Montréal, et puis évidemment anglophone. Alors ça m'a, il a été extraordinaire avec moi. Et puis ce match-là de fou commence, toi. Here comes the Red Wings. They shoot, they score!
Again!
And they score, and they score! And Jimmy, it's now 6-0 for the Red Wings. C'est 6-0 les Red Wings. Et là, puis mais à l'époque, la télé ne te donnait pas un moniteur officiellement ou nécessairement. Et nous, on n'a pas de moniteur pour voir les reprises. Donc, on ne sait pas ce qui se passe.
Bien, c'est un peu la question que je voulais te poser. De la passerelle, quand Patrick Roy finalement s'en va, après beaucoup de mouvements d'impatience, lève les bras dans les airs, tout le monde s'en souvient, venez me chercher. Ce qui s'est passé sur le banc, l'échange de regards, les mots à Ronald Coré, est-ce que tu as vu ça du tout?
Non, la réponse est non. Et c'est ce qui est encore plus bizarre dans toute cette histoire. c'est que moi, j'ai vu les bras en l'air parce que, tu sais, nous, quand on décrit le hockey, on est comme la caméra qui suit la rondelle.
Mm-hmm. C'est mobile.
Oui, ça a donné que quand il a levé les bras, le jeu était de ce côté-là. Je l'ai vu. Puis là, j'ai même dit à Corsi, mais là, je pense que Patrick Roy commence à en avoir assez. Et lui, il dit, je suis gardien de but moi-même, je peux comprendre Patrick, blablabla.
Là, il venait de faire un arrêt de routine sur un dégagement. Les gens de l'aréna avaient applaudi.
En dérision.
C'est là qu'il avait levé les bras dans les airs.
Exactement. Ouais. Et là, ça, je l'ai vu. Mais par la suite, le seul outil qu'on a, c'est que Jim a des longues vues d'opéra.
Ah, ben, les petites jumelles,
genre,
oui!
Pas fort, ça. Hein? Le foyer ou le champ de...
Pas beaucoup de jeux.
Pas beaucoup de jeux. Puis là, en onde, il dit, Pierre, il dit, bon, finalement, on retire Patrick Roy. Puis là, il dit, Pierre, il dit, je pense qu'il se passe quelque chose au banc du Canadien que je vois avec mes longues vues. Avec
ça n'a pas de bon sens, c'est caricatural.
Non, mais c'est fou. Mais là, c'est rien, ça. Nous, on finit le reportage. Puis là, quand ça finit, je fais, oh, je dis, comment j'ai été? Là, je suis inquiet, évidemment, de ma performance. Puis... Good night, everybody. And Dick Irvin is coming with the post-game show in about 2 minutes. Puis là, ben, je m'en vais. Puis là, je fais ouf. Puis là, j'appelle mon frère. Je dis, t'as-tu écouté? J'étais-tu correct? Ah, oh, oui. Finalement, j'arrive chez nous, j'ouvre la télé et c'est le téléjournal qui commence. Puis la première manchette du téléjournal, c'est ça. Pas les nouvelles du sport, le téléjournal. Et là, je fais, je peux pas croire que. J'ai décrit ce match-là, mais sans vraiment savoir ce qui se passait.
Sans vivre pleinement le reste de l'action.
Mais parce que c'était ça l'histoire, mais oui. Le recul, mais on ne pouvait pas le voir, nous. Puis Corsi ne pouvait pas deviner ce qui se passait. Alors, je me suis dit, bon, ben là, l'histoire, c'est pas tellement que j'ai décrit le match en anglais. L'histoire, c'est que j'ai décrit ce match-là en anglais particulièrement.
Et connaissant votre saine rivalité, ben Paul, lui, a retenu que t'avais passé à côté de l'histoire du match.
T'as fait
une belle job, mais t'es passé à côté de l'histoire.
T'as pas compris le principal. Mais il n'y avait pas tort. Mais c'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, souvent, nos collègues de la radio... autant TSN anglais que le 98.5, le Martin McGuire, Danny Dubé, souvent, ils vont s'assurer, et aujourd'hui, il y a une collaboration, RDS est irréprochable là-dessus, systématiquement, on s'assure que nos collègues, que ce soit à Boston, à Chicago ou à Denver, qu'ils aient notre signal avec un moniteur. Techniquement, c'est plus facile aussi en 2023, on s'entend là-dessus. Là. Mais on fait des efforts pour qu'ils aient accès, parce que c'est un outil de travail qui est essentiel, mais que nous, on n'avait pas ce soir-là, ironiquement.
Hey Pierre, tu restes avec nous autres, évidemment. Il est 15h11 pour nous rejoindre par texto. C'est le 418-971-1021. On est sur le Twitch également, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. On s'arrête quelques instants, on revient, on va prendre le temps de faire le tour de tout ce qui se brasse sur le réseau routier de Québec.
Pour joindre l'équipe de Gravel d'Entier, boulevard 102.1, tes sujets, ton rock, ta radio.
La météo présentée par Café Sobab. Venez profiter de conseils personnalisés sur l'achat de machines à café, formation incluse, tout en dégustant un bon breuvage. Café Sobab, 3e avenue, Limoilou.
Boulevard 102.1. Gravel dans Le Retour. C'est Le Retour de Boulevard 102.1.
Ça fait tilt au fond de ma tête d'avoir une belle salle pleine d'amis. Applaudissez-vous, vous êtes beaux, tout le monde est beau.
Avec Denis, Véro, Pierrot.
On est en train de vivre ensemble la plus chaude de 2023 à 30 degrés, 34 avec l'humidité. Sur les routes, Sam, ça se passe comment?
Ça se passe relativement bien, sauf entre l'avenue du Bourg-Royal et la rue Seigneuriale. Il y a un accident en direction S. Les pompiers sont sur place. Il y a une voie sur deux qui est bloquée au moment où on se parle. L'accident n'est toujours pas terminé, donc ça refoule un petit peu. Et on m'a dit que ça serait avec une moto. Donc c'est à suivre et à attendre.
Minimum de 17 pour ce soir et cette nuit. On vous rappelle que demain, c'est des orages dispersés. On est sous les nuages à 29 degrés. Dimanche, encore chaud et du soleil. Finalement, soleil, quelques nuages, pas d'averse. 26 degrés. La pluie débute lundi, se poursuit jusqu'à vendredi. 418-971-1021 pour nous rejoindre. On va se donner un peu d'air pour prendre le temps de jaser avec Pierre Houde. Les Red Hot Chili Peppers et Californication à Boulevard.
And if you want these kind of dreams, it's California. vacation. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
pas beaucoup de tonnes qui donnent plus de chaleur que Californication des Red Hot Chili Peppers. On dirait presque qu'on a réfléchi à la thématique. C'est Gravel dans le retour, 31 degrés présentement à Québec. Pierre-Aude est en studio avec nous autres pour une première fois réunis depuis des années, mais Pierre.
Puis même Audrey est avec nous.
Audrey,
on est peut-être pas supposé le dire.
Qui sue sa vie présentement.
J'étais convaincu qu'elle s'en venait pour qu'on chante
en duo.
Ah, ben là, avoir su,
en harmonie,
Pierre,
qu'on chante une petite chanson du terroir pour la Saint-Jean.
Ben oui.
Quelque chose comme, je sais pas,
Louis. Mon arrière-grand-père. Ah, OK, on est là.
Moi, c'est plus...
OK.
Moi,
ouais. Je suis de l'autre génération. Avoir su, j'aurais préparé
bon
quelque
Louis
chose.
Forestier, là.
Oui, ben, moi, je suis d'accord avec toi, Pierre, mais il faut comprendre qu'Audrey est vraiment d'une autre génération. Dans son jeune âge, c'est la chicane.
Oui, je me fais taper sur le bras. Pour dire pépère, arrête.
Connais-tu la chicane, Pierre?
Bon, la chicane.
Oui, je connais la chicane.
Dis-moi que t'es un peu un fan, là.
La bottine souriante. Dans le
ah,
temps.
Ben là, tu vois, je te
Wendy,
suis.
Non, Wendy, c'était pas la bottine souriante. La bottine,
non.
J'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'aimais de la bottine. Attends une minute. Aïe, aïe.
Boisson d'avril avec Groovy Artwork.
Ah, c'est bon, ça!
Non, ouais. Ça va me revenir.
Là, t'es en train de me trouver un terrain commun.
non, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas faire autrement. Puis je suis sûr que ceux de ma génération comprennent. On a eu tellement de grands, extraordinaires rassemblements. Puis je fais pas de politique parce que dans le fond, ça allait bien.
Ah non, t'es pas comme Émile Bilodeau. Ben,
c'est plus à mode. Maintenant, un artiste engagé soulève un débat. Des années 70, si t'étais pas engagé, il t'appelait pas. Là.
En plus, c'est que l'année passée, je suis en deux périodes. Puis Luc Gélina arrive dans ma cabine avec Émile.
Ouais.
Mais il est tellement fin,
ben
en
oui.
Plus, il était tellement content de me rencontrer. Puis là, je dis, es-tu fin, ce petit gars-là? Puis ma fille a fait cégep en spectacle sur la même scène qu'Émile.
Ah oui?
Fait qu'Émile, il y a un faible pour Michel.
Oh!
Et puis, donc... Puis là, après ça, je commence à lire cette semaine. Je dis, oh, mon Dieu, c'est pas Émile, Émile!
Mais qu'est-ce qui est arrivé?
Qu'est-ce
avec,
qui est arrivé? Avec, oh.
Mais puis en même temps, je veux dire, c'est pas vraiment de sa faute. Je trouve ça un peu ironique parce que, justement, je veux dire, les artistes engagés, ils étaient légion dans les années 70. Ben oui. Ils faisaient quasiment à fil. Là.
Mais c'est ça. Et c'est pour ça que je veux dire qu'on s'arrêtait même pas à ça. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que c'est difficile pour ma génération de se détacher de une fois cinq. Puis une fois cinq, ça a été fait en deux volets. Il y avait un volet à Québec, mais un volet à Montréal. Et puis, j'étais au Centre de la nature, c'était pas à la Saint-Jean, mais j'étais au Centre de la nature à Laval quand Harmonium a attiré à peu près 200 000 personnes. Hey. On a bloqué les trois ponts de la rivière des Prairies.
Là, il faut que tu expliques à Audrey, c'est quoi une fois cinq, Pierre?
Ouais, ouais, là, ben, écoute, tu m'as perdu un
ben,
peu.
Une fois cinq, c'était cinq grands interprètes, poètes, auteurs, compositeurs réunis ensemble. Alors, Ferland, Deschamps, Léveillé, Vigneault, Charlebois.
OK.
Ça, c'est le Petit Roi, version une fois cinq.
Un spectacle mythique de 1976.
Et en plus, t'imagines, le Parti québécois vient d'être élu.
Oui.
76, pour la première fois. Montréal va avoir ses Jeux olympiques. J'ai les frissons. Montréal va avoir ses Jeux. Il y a une certaine euphorie. C'est pas seulement politique, là. Au contraire, il y a beaucoup de courants très, très forts, très positifs, pas seulement à Montréal, partout au Québec.
C'est un bouillonnement qu'on a effleuré un peu dans un documentaire extraordinaire. Puis justement, les gens de la génération d'Audrey, j'essayais de les canaliser vers ça. Le documentaire que Télé-Québec a fait sur l'Hostie de Show.
Ça s'appelle l'Hostie de quoi?
Qui raconte toute cette période-là, puis c'est d'expliquer le Québec de l'époque qui se réveillait et qui voyait des choses. Tu sais, c'est compliqué d'expliquer à la nouvelle génération, Pierre, le monde avant Internet, c'était quoi? Et l'impact que l'Expo a eu du côté de Montréal, parce que ça nous a montré le reste du monde, puis ça a été peut-être notre premier partage international. Puis là, il y a une génération qui s'est dit, bon, à cette heure, on les appellerait les woke, mais dans ce temps-là, on les avait trouvé un autre nom, mais c'est des gens qui voulaient prendre leur place, puis qui voulaient, par la culture, par la politique et ainsi de suite, il y avait un bouillonnement incroyable.
Absolument, puis c'est pour ça que c'est bien au-delà de la politique partisane,
ben
pour
oui.
Moi, parce que ça a commencé dans les années 60. En fait, ça a commencé avec la Révolution tranquille, sous Jean Lesage, parce que, et encore là, je fais pas de politique d'un parti plus qu'un autre, mais c'est la Révolution tranquille. En fait, c'est En fait, c'est l'émeute du forum, dans le fond. Encore la bonne vieille émeute du forum qui a été le pétard à mèche dans tout ça. Mais après ça, la Révolution tranquille a amené... C'était au-delà de la politique. C'était de gérer nos ressources. C'était de pouvoir ouvrir les portes de l'économie, ouvrir les portes de la connaissance, de la culture. Et puis après ça, ben le métro est arrivé parce que le maire Drapeau, on peut bien lui reprocher tout ce qu'on veut, puis il était peut-être un petit peu à droite plus qu'à gauche, mais peut-être qu'au-delà des reproches, là, le métro est arrivé, puis on a dit, bien tiens, il va y avoir une mobilité à Montréal, puis les Montréalais vont pouvoir se déplacer, puis ça va être assez propre, ça va être écologique, et puis tout ça. Puis là, l'Expo 67 arrive, puis je l'ai vécu, moi, à 10 ans, j'ai... Ah. Mais là, fais-moi pas ça.
Ben, je savais que j'allais t'accrocher dessus.
OK, rouvre le vin,
Véro. Mais tu en dis là, mais la bière s'en vient aussi.
Ah, la bière s'en vient.
Ah oui, elle est dans le corridor.
Mais ça, c'est plus la bière. Je vais arrêter là, là. Mais
c'est dans le documentaire, on les voit, tu sais, Charles Bois qui est encore dans une forme impériale, Louise Forestier, Yvon Deschamps qui parlent de cette époque-là, puis de la liberté qui se donnait et de l'incompréhension de la génération d'avant. Il parle de Bussonneau, entre autres, qui était le metteur en scène du spectacle qui essayait de monter. Puis à un moment donné, ben lui, il s'est fâché après Charles Bois parce que la musique était trop forte. Puis la musique, il l'aimait pas. Puis il a dit, ben ton hostie de show, tu te le mettras dans le cul.
C'est exact.
Et Charles Bois s'est dit, oh, OK, on vient de trouver le titre.
On vient de trouver le titre.
L'hostie de show. Exact. Mais je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe présentement sur un paquet d'enjeux. Tu vois l'incompréhension d'une génération qui est aux prises avec des jeunes qui veulent brasser les affaires, qui veulent imposer leur truc. La nouvelle génération d'artistes au Québec, évidemment, ce ne sera jamais Harmonium, ce ne sera jamais Beau Dommage, ce ne sera jamais Charles Bois, mais on recommence à avoir, je trouve, un bouillonnement rassembleur après des décennies où on a peut-être délaissé notre
neutre,
Québec
hein?
un peu. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec le loup, mais j'en ai pas eu beaucoup d'autres. Là. On dirait qu'on a eu une génération où on a peut-être négligé notre bouillonnement politique, notre bouillonnement culturel. Puis moi, je sens ça reprendre. Puis que je sois d'accord ou pas avec ce qui se passe, puis je trouve ça le fun de voir que ça recommence à bouillonner un petit peu.
Bien sûr.
Et c'est sain, tout ça. Là.
C'est sain, tout ça. Et ça bouillonne avec des influences qu'on ne connaissait même pas il y a 50 ans. À l'époque, c'était beaucoup les francophones qui voulaient sortir de leur cocon et qui voulaient s'exprimer. Ça tenait pas mal à ça.
Mais oui.
Le Québec n'était pas le Québec inclusif, le Québec de la terre d'accueil n'était pas l'influence de multiples cultures qu'on a présentement et qui donnent des extraordinaires moments de musique, de poésie, des mélanges, les mélanges latinos, les mélanges africains. En fait, tout ça, ça donne une saveur extraordinaire à ce qui est fait ici. Et il faut l'accepter. Mais moi, si tu me demandes, comment est-ce que je... tu me mets ça en arrière, là. Ça, c'est la marche du président.
Oui.
Qui a été... Faut pas que je me trompe. C'est Vigneault, je pense, qui a écrit les paroles de la marche du président.
Bien possible.
Parce
oui.
que c'est souvent dans les questions pièges.
Ah.
C'est complètement fou, mais c'est tellement beau, les paroles. Puis écoute les harmonies. Mets un peu de son.
Ben moi, Forestier me fait capoter, là. Je veux dire. Devant le ciment silencieux. Derrière chez nous, il y a un étang. Je comprends que Lindbergh, on la connaît par cœur, mais à un moment donné, réécoutez-la, puis faites juste focusser sur ce que Forestier fait. Des fois, elle suit. Des fois, elle invente des mots. Des fois, elle répète. Des fois, elle t'en vocalise. Des fois, elle l'est pas. La liberté totale.
Puis des fois, elle fait juste un petit cri.
Ouais.
Juste
ouais.
pour aller chercher un poteau de rythme, là.
C'est hallucinant.
Mais d'ailleurs, je te l'avais déjà dit, c'était dans mon top 5. C'est encore dans mon top 5 d'albums, celui-là. Forestier, Charles Bois, Forestier.
Lindbergh est là-dessus. Oh, Engagement est là-dessus. Engagement, California.
Engagement, là, c'est... Je peux te le chanter, je peux te le répéter par cœur.
De l'oreille, c'est là-dessus aussi.
Oui.
Tout un album, ça, c'était 1968.
Ah oui, absolument.
Ouais,
et,
ouais.
Puis écoute, là, t'avais des poètes interprètes. Mais imagine-toi les musiciens que tu avais à l'époque. Alors, il n'y a pas seulement la pointe du iceberg, il y a tout le iceberg en dessous. Là. et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tiens, je vais prendre l'occasion. Je veux qu'on se rappelle, ou si vous ne connaissez pas les plus jeunes, faites un effort, exemple, d'aller voir qui est Stéphane Venn. Stéphane, on est amis sur Twitter. Stéphane Venn a été la machine à succès au Québec. Je ne sais pas quel équivalent on peut trouver aux États-Unis ou en Angleterre. tous les succès de René Claude
oui.
ont été composés par Stéphane Venn. Quand Pierre Lalonde a relancé sa carrière après le Pierre Lalonde de jeunesse d'aujourd'hui, c'est Stéphane Venn qui lui a donné une deuxième carrière. Stéphane Venn a composé presque des hymnes également. Stéphane Venn est derrière des chansons publicitaires extraordinaires. Je trouve malheureux que ces artistes, c'est pas des artistes, c'est des monuments mm-hmm. qu'on a dans notre culture. On les oublie un peu aujourd'hui, un peu beaucoup d'ailleurs.
Ouais.
Et puis je sais pas, c'est pas moi tout seul qui va changer la situation. Puis je sais pas de vous imposer ça. Mais si de temps en temps vous prenez le temps puis vous trouvez ça beau, La rue de la montagne de René Claude, Tu trouveras la paix dans ton cœur de René Claude. Il y a quelqu'un qui l'a composé. Mais il composait ça, puis il composait un deuxième succès une demi-heure après.
Des machines, hein?
Des machines à composer des succès. Tu prends le répertoire juste de Stéphane Venn, c'est extraordinaire. Puis après ça, tu peux aller vers les Cousineau, Luc Cousineau, François, bien sûr, mais tu peux aller vers Luc Cousineau, et puis tu peux aller vers tous les artistes des années 60 et 70 qui avaient cette capacité non seulement d'être interprètes, mais d'être des créateurs extraordinaires de musique. Qui nous ont fait vibrer.
Ah, puis la musique continue de faire vibrer. On a vécu un moment d'importance il y a à peine 48 heures à Québec, à Place Diouville. Serge Fiori est remonté sur scène pour la première fois en plus de 35 ans et il a rechanté du harmonium. Hey, le nombre de personnes qui ont essayé de faire ça, qui ont essayé de demander à Serge Fiori pour un groupe hommage, un show symphonique, un show hommage à Fiori, c'est sûr qu'ils ont tous rêvé à ça, puis ils l'ont tous essayé. Hey Serge, si jamais ça te tente à la fin de monter sur scène, tu te gênes pas, hein? Ben c'est arrivé pendant des célébrations mm-hmm. pour la journée des Premières Nations.
Ça a été improvisé?
Non, ça avait été planifié, mais planifié. Personne n'était au courant, puis c'était 11 nations autochtones qui réinterprétaient la chanson avec chacun leur partie.
Laquelle, pour un instant?
Musicien parmi tant d'autres.
Ouais. Ouais. Oh, wow.
Et lui a chanté à deux reprises dans la chanson. Puis c'est ce qu'il expliquait. Il dit, la seule chose qui me fait sortir de la retraite qu'il s'est imposée, c'est que c'était pour les peuples autochtones.
Ah,
c'est c'était
ça
le prêteur. Oui, exact.
Ah. On a bouclé la boucle. Fiori s'est réapproprié Harmonium cette semaine. Je trouvais ça beau.
Ben, pourquoi pas?
Ben oui.
Tu pourras jamais vraiment réunir Gilmore et
non, jamais. Edna Waters.
Ouais,
non.
Là, le train passé là-dessus,
oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça enlève rien que un et ou l'autre peut interpréter ce qui a été créé à l'époque.
Absolument.
Quand ils étaient ensemble.
Ouais.
Ça demeure beau. Qui peut pas trouver ça beau?
Écoute.
Ce que tu fais jouer présentement, honnêtement. Là.
C'est une toune que tout le monde avait rechantée autour d'un feu de camp. Il y en avait juste un qui ne l'avait pas rechantée. C'est le gars qui l'a créée, Serge Fiori, puis il l'a faite cette semaine.
Wow.
Ouais. Dans notre cour, en plus, à Place Diouville.
Ah, ben, je suis content pour vous autres.
Hey, la bière est arrivée, ça a de l'air. Fait qu'on va poser, nous autres, 15h38. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Émission spéciale, Pierre-Aude est en studio avec nous autres pour nous rejoindre le 418-971-102.1. C'était une semaine de nouveaux arrivages musicaux à Boulevard et dans les dernières heures, on vous a présenté les nouvelles chansons qui se retrouvent sur le radar. Vous votez pour, vous votez contre et ultimement, vous allez décider si ces chansons-là, vous allez les entendre tout au long de la saison estivale ou si vous les entendrez juste plus. BLVD.fm, section musique, section nouveauté. Et parmi ces nouvelles chansons sur le radar, chanteurs de Slipknot, mais aussi de Stone Sour, capable du doux comme du lourd. Et là, il est entre les deux, puis il est juste bien. Corey Taylor avec Beyond. Chanson. Il fait chaud en studio. On est en surnombre. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qui ferait du bien. Ah, ben oui, d'ajouter des invités. Hein, quelle bonne idée. 418-971-1021, c'est Gravel dans le retour. 30 degrés du soleil, j'espère. Que votre grande fin de semaine est débutée. Et si c'est pas le cas, courage, ça s'en vient lentement, mais sûrement. Et là, on va vous donner le goût de fêter la Saint-Jean à votre goût. Les trois chaloux de la grande région de Québec qui vous présentent cette discussion de brou. Allez faire vos provisions. Vous étiez déjà nombreux dans le secteur Beauport ce matin. Secteur Grand Marché, évidemment. L'original à Saint-Émile. Émilie Duchaloux, Grand Marché, est avec nous autres. Salut, Émilie.
Salut à vous quatre. Bonjour.
Bonjour, Émilie.
Pierre, c'est un plaisir de vous revoir, d'ailleurs.
Un grand plaisir aussi de te revoir. J'espère qu'on peut se tutoyer.
Avec plaisir.
On se vous voit, on se vous voit à la radio officielle d'État.
Ouais.
Ici.
Non. Ici, on peut se...
ici, c'est la ici, c'est la radio d'État. Donc, on peut se tutoyer un peu
c'est
plus.
C'est un vieux gag, ça.
Ouais, je le prends.
Le gag est cynique, je pense.
Ouais, je suis plus mon oncle que Pierre, c'est l'enfer, pareil.
Ah, boy. Non.
Hey, Émilie, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Parce que je sais que tu voulais revenir un peu sur le partage que tu avais eu avec Pierre lors
Absolument.
De son premier passage.
Absolument. Il avait été un joueur exceptionnel parce qu'il avait embarqué dans l'aventure alors que c'est pas un grand maniaque de bière. Je me trompe pas, Pierre?
Ben, je veux dire, je suis amateur, mais je suis pas aventurier. Mm-hmm,
voilà.
En fait, je suis très vieux jeu dans la bière. Alors, c'est pour ça et je m'en veux, mais je m'assume.
C'est bien parfait.
J'avais fait un aveu, finalement.
C'est correct. Ben, je ne suis pas étonnée de ce que j'entends là. Fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de chance. Pierre, j'ai apporté que des bières de couleur blonde. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper aujourd'hui.
De toute façon, vous en avez la preuve aussi, parce que Lynn est à nos côtés. J'ai un faible pour les blondes.
Mais là, Pierre, j'imagine que tu penses que si la bière est blonde, ben ça goûte la bière blonde.
Oui.
OK. On va avoir du fun.
On va avoir du plaisir après-midi.
Mais c'est ce que dit mon cerveau.
Exactement, c'est ça.
D'un premier trait.
Ouais. Puis c'est le réflexe normal, tout à fait aussi. Puis c'est comme si au Québec, on a développé ça d'appeler les bières par leur couleur. Tout simplement, dans l'histoire de la bière, à un moment donné, quand Boréal a sorti sa bière rousse, donc qui était une Red Ale classique, on appelle ça une Red Ale, mais les gens ont commencé à appeler ça de la bière rousse. As-tu de la bière rousse? Est-ce que tu as de la bière noire? As-tu de la bière blonde? Donc, ambrée. Donc, on est un des seuls endroits au monde où on appelle la bière par sa couleur. Il y a les Allemands, les Tchèques qui le font aussi. Mon allemand n'est pas très bon, donc je ne me lancerai pas là-dedans après-midi. Mais les Svetlitschipni de ce monde, donc eux autres, ils appellent beaucoup les bières par la couleur. Donc une bière pâle, légère. Donc voilà.
Puis on a le réflexe aussi de se dire, si elle est de cette couleur-là, elle goûte à peu près ça.
Exactement. Ouais. Déjà, par la couleur, on va se donner des pistes de saveur un petit peu. Fait que j'ai eu envie de brasser la sauce aujourd'hui.
Ah, je suis tout à fait d'accord d'être le cobaye.
Ça marche. Première bière que je vous ai apportée, c'est la gang de mes amis de BG, d'ailleurs, qui sont en dégustation Grand Marché aujourd'hui. Allez donc étancher votre soif. Allez-y, faites un petit arrêt. Gilles de chez BG qui est là aujourd'hui pour... Puis il y a des produits pas pires, j'ai pas le droit de le dire, mais il sert des petites exclusivités un peu après-midi. Alors, celle que je vous ai apportée après-midi, c'est l'Exode Urbain. On parle d'une Pils tchèque, donc une bière désaltérante, un petit côté céréal. On est là, hein?
On est vraiment là.
Ça, c'est un classique, là.
Absolument. C'est une belle bière pour étancher la soif à des 32 degrés
Celsius. La Tchéquie, c'est un pays important dans l'histoire de la bière. Hein?
Absolument.
Est-ce que tu savais que la Budweiser originale vient de la Tchéquie?
Ah oui?
Budweiser?
Oui, on